Octave Mirbeau, le mur. Le père Rivoli a un mur. Ce mur longe une route. Il est fort délabré. Les pluies et la pioche du cantonnier ont miné la base et les pierres des chaussées ne se tiennent plus guère. Et les brèches s'ouvrent. Il est pourtant joli, ce, avec son aspect de vieille ruine. Quelques iris en couronnent le faîte, des linaires, des capillaires, des joubarbes poussent dans les fentes. Quelques pavots aussi se pavanent entre les interstices des moellons. Mais le père Rivoli n'est pas sensible à la poésie de son mur. Et après l'avoir longuement examiné, après avoir fait remuer les petites pierres blanches brillantes comme les dents de la mâchoire d'un pauvre homme, il se décide enfin à le réparer. Oh, il n'a pas besoin d'un maçon, car il a fait tous les métiers dans sa vie. Il sait battre le mortier comme il sait raboter une planche, forger un bout de fer, écarrir un chevron. Et puis, le maçon, ça coûte cher et ça n'avance pas dans le travail. Le père Rivoli achète un peu de chaux, un peu de sable, réunit sur la route au pied de son mur quelques moellons trouvés dans son clos, et le voilà qui se met à travailler. Mais à peine un matin a-t-il lancé une demi-pelletée de mortier pour boucher le premier trou et caler la première pierre, que tout à coup, derrière lui, il s'entend héler d'une voix sévère. Eh bien, père Rivoli, qu'est-ce que vous faites là? C'est l'agent Voyer, en tournée matinale. Il porte sur lui, dans une carnassière bondée d'instruments de géométrie, et sous son bras, deux nivelettes peintes en blanc et en rouge. « Oh, oh !» dit-il de nouveau, après s'être campé sur la berge en statue terrible du règlement administratif. « Oh, oh ! À votre âge, on se met encore en contravention. Voyons, qu'est-ce que vous faites là ?» Le père Rivoli s'est détourné, il dit, « Eh bien, je répare mon mur. Vous voyez qu'il fout le camp de partout. »« Oui, oui, je le vois, » répond l'agent Voyer. « Mais avez-vous une autorisation ?» Le père Rivoli s'effare et se lève en maintenant de ses deux mains ses reins raidis. « Une autorisation, vous dites ?» Mais mon mur est-il pas à moi? J'ai besoin d'une autorisation pour faire de mon mur ce qui me plaît. J'ai besoin. Le figer par terre ou le dresser, si c'est mon idée. Ne faites pas le malin, vieux sacripant. Vous savez de quoi il retourne. « Enfin, s'obstine le père Rivoli, est-il à moi, ce mur, oui ou non ?»« Oui, ce mur est à vous, mais il est sur la route. Vous n'avez pas le droit de réparer un mur qui est à vous et qui est sur la route. »« Mais vous voyez bien qu'il tient plus debout, et que si je ne répare pas, il va tomber comme un homme mort. » Non, c'est possible, Mais ça ne me regarde pas. Je voudrais ce procès-verbal. Primo, pour avoir réparé votre mur sans autorisation. Secondo, pour avoir également sans autorisation déposé des matériaux sur une voie publique. Oh, vous en aurez pour une pièce de 50 écus d'amende. Mon père Rivoli, ça vous apprendra à faire l'ignorant. Le père Rivoli ouvre toute grande sa bouche édentée et noire comme un mur et noire comme un four. Mais sa stupéfaction est telle qu'il ne peut articuler une seule parole. Ses yeux virent dans leurs orbites ainsi que de minuscules toupies. Et au bout d'une minute, il gémit en empoignant sa casquette d'un geste de découragement et répond: 50 écus, si c'est possible, Jésus-Dieu. Et l'agent voyé continue: Oh, mais ce n'est pas tout. Vous allez réparer votre mur. Ah non, 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 oh, je ne réparerai rien du tout. Il vaut pas 50 écus. Il arrivera ce qu'il voudra. Et vous allez réparer votre mur, poursuit le fonctionnaire d'un ton impératif, parce qu'il menace, ruine, et qu'il endommagerait la route en tombant. Et retenez bien ceci. Si votre mur tombait, je vous dresserai un nouveau procès-verbal. Vous en auriez cette fois pour 100 écus d'amende. Le père Rivoli s'affole. Pour 100 écus? Oh malheur! Mais dans quel temps qu'est-ce que nous vivons? Mais auparavant, écoutez-moi bien. Vous allez, sur du papier timbré de 12 sous, demander au préfet une autorisation. Ne sais point écrire. Oh, ce n'est point mon affaire. Enfin, voilà, j'ai l'œil. Le père Rivoli rentre chez lui. Il ne sait quelle résolution prendre. Mais il sait aussi que l'administration ne badine pas avec les pauvres gens. S'il répare son mur, c'est 50 écus d'amende. Et s'il ne le répare pas, c'est 100 écus. On l'oblige à réparer son mur et on lui défend en même temps. Dans tous les cas, il est en faute et il doit payer. Ses idées s'embrouillent, il a mal à la tête. Et pourtant, dans toute leur étendue, son impuissance et sa détresse, il soupire. Oh, et le député l'autre jour, il m'avait dit que je suis des souverains, que rien ne se fait que par moi, que je peux faire ce que je veux. Alors il m'a demandé son avis à un voisin qui connaît la loi, étant conseiller municipal. Ah, c'est comme ça, père Rivoli, lui dit celui-ci d'un air d'importance. Il faudra passer par là. Et comme vous savez point écrire, bien, je veux bien vous obliger à ce petit service. Je vais vous rédiger votre demande. La demande est partie. 2 mois se passent. Le préfet ne répond pas. Oh, les préfets ne répondent jamais. Ils font des vers, ils flirtent avec les femmes des receveurs d'enregistrement, ou bien ils sont à Paris, ou ils passent leur vie, leur soirée à l'Olympia, aux ambassadeurs. Et chaque semaine, l'agent voyer s'arrête devant la maison du père Rivoli. Eh bien, cette autorisation, ben, rien encore. Ben, il faut envoyer une lettre de rappel. Et les lettres de rappel vont rejoindre dans la tombe des bureaux, parmi d'inviolables poussières, la demande d'écrit sur papier doré. Alors, tous les jours, le père Rivoli guette le facteur sur la route, et jamais le facteur ne s'arrête à sa porte. Et les brèches du mur s'agrandissent, les pierres s'en détachent et roulent sur la neige, le mortier s'effrite, se soulève, et de plus en plus, car il est venu pendant ce temps une grêle gelée, et les pluies gagnent, rongent de leur lèpre ce pauvre mur à demi écroulé. Une nuit de grand vent, il s'est écroulé tout à fait. Le père Rivoli a constaté le désastre le matin dès l'aurore. Dans sa chute, le mur a entraîné les espaliers de dos qui donnaient de si beaux fruits à l'automne. Et rien ne défend plus la demeure du pauvre homme. Les voleurs et les vagabonds peuvent à toute minute entrer pour suivre les poules, voler les œufs. Et l'agent voyer est revenu, terrible. Ah ah ! Vous voyez bien ce que je vous disais. Il est tombé, parbleu. Allons, allez, je vais vous encore dresser procès verbal. Le père Rivoli pleure. Mais c'est-il ma faute, c'est-il ma faute, puisque vous m'avez empêché de réparer. Allons, allons, allons. Après tout, hein, c'est pas une grosse affaire. Avec les 50 écus de la première amende, ça ne vous fera que 150 écus. Et les frais, oh, vous pouvez bien payer ça. Mais le père Rivoli ne peut pas payer ça. Toute sa fortune est dans son clos et dans ses deux bras qui font vivre son clos dans leur continuelle fatigue. Le bonhomme devient sombre. Il ne sort plus de chez lui et toute la journée il reste assis devant l'âtre sans feu, la tête dans ses mains. L'huissier est venu deux fois. Il a saisi la maison, il a saisi le clos. Et dans 8 jours, on va vendre tout cela. Alors, un soir, le père Rivoli quitte sa chaise et son âtre sans feu. Il redescend du cellier, silencieux, sans lumière, à tâtons parmi les pipes de cidre vide et les outils de travail et les paniers. Il cherche une grosse corde qui lui sert à rouler ses fûts de boisson. Et puis, il remonte dans son clos. Et au milieu du clos est un grand noyer qui tend ses branches noueuses et solides au-dessus de l'herbe parmi le ciel où meurent les premiers rayons de lune. Il arrache la corde à une... Il attache la corde à une des branches hautes, car il a grimpé dans l'arbre au moyen d'une échelle, et il s'est montée de fourche en fourche, puis il noue la corde autour de son cou et se laisse tomber d'un bloc dans le vide. La corde en glissant crie sur la branche a fait entendre un léger craquement. Le lendemain, le facteur apporte l'autorisation du préfet. Il voit le pendu qui se balance au bout de la corde, dans le clos, parmi les branches d'arbres, où deux oiseaux s'égosillent.